Des sous et des hommes. Une émission d'éco-pédago proposée et présentée par Pascal Fourier tous les mardis de 17h à 17h30. Nous vous proposons aujourd'hui l'émission du 8 janvier avec la diffusion de laquelle nous avons eu un petit problème technique, ce dont nous vous prions de nous excuser. Notre invité sera donc Thomas Coutreau, qui est économiste. Le chômage s'en va, le chômage revient. On ne sait plus trop bien. Pourquoi est-il là? Pourquoi n'est-il plus là? Mystère. Le commun des mortels a donné de multiples explications au chômage ces dernières années. Le progrès technique, les délocalisations, la concurrence internationale, par exemple. Vrai ou faux? Explication valable ou explication qui n'est pas valable du chômage? Je suis allée voir Thomas Coutreau pour le lui demander.
Alors, prenons par exemple, pour commencer, le progrès technique, puisqu'en effet, c'est une thèse qu'on entend assez souvent. On entend souvent les non-économistes dire, aujourd'hui, avec l'informatique, les nouvelles technologies, il y a des gains de productivité fantastiques. On rend les guichets automatiques remplacent les employés de banque. Les distributeurs automatiques remplacent les employés des boutiques vidéo. Et maintenant, avec Internet, tout va se faire par le réseau, et donc ça va supprimer des dizaines de milliers d'emplois. On a beaucoup parlé, et des millions d'emplois, on a parlé même de la fin du travail. Hein, c'était la thèse célèbre de Rifkin dans les années 90-95. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un discours de non-économistes. Mais tous les économistes, alors qu'ils soient de droite, de gauche, orthodoxes, libéraux, marxistes, etc., tous les économistes sont au moins d'accord sur une chose. C'est que ce n'est pas le progrès technique qui est à la source du chômage, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il y a peut-être du progrès technique, il y a certainement du progrès technique en ce moment, mais il n'y a pas de productivité. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, aujourd'hui, la productivité, elle augmente beaucoup moins vite que par le passé.
Productivité ?
Alors la productivité, c'est-à-dire, c'est le volume de richesse produite par chaque personne, par chaque salarié, par exemple. Dans les années 50-60, le volume donc de marchandises ou de services produits par chaque personne augmentait d'à peu près 5% par an. Aujourd'hui, c'est seulement 2%. Et c'est un ralentissement considérable de ce qu'on appelle les gains de productivité, qui coïncide d'ailleurs avec la fin des années 70 et la montée du chômage. Alors donc déjà, d'un point de vue simplement, quand on regarde simplement les faits, hein, au moment où le chômage augmente, la productivité ralentit, et le progrès technique donc ralentit apparemment. Hein, donc déjà, c'est une première raison qui fait qu'on peut pas dire que c'est à cause de la productivité, à cause du progrès technique, que le chômage a augmenté. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la productivité, c'est-à-dire l'accroissement de l'efficacité du travail et de l'efficacité de l'utilisation des techniques, bah ça c'est au contraire c'est un facteur de création d'emplois à long terme. Ça va stimuler la croissance, ça va stimuler les nouvelles créations d'entreprises, les nouvelles initiatives. Donc en réalité, là il y a vraiment un consensus, hein, c'est assez curieux, c'est un des seuls sujets sur lesquels les économistes sont d'accord, c'est qu'il n'y a pas de lien entre productivité et chômage. Et ça, c'est une idée. Alors c'est une idée qui est très difficile à faire passer chez les non-économistes, parce que c'est un fait effectivement qui semble évident, hein, c'est le sens commun, qu'une machine va remplacer un homme, et que donc les machines vont mettre les hommes au chômage. Et ben c'est pas du tout comme ça que ça se passe au niveau macroéconomique, au niveau de l'économie dans son ensemble. Bon, alors ça veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des professions qui disparaissent à cause du progrès technique. Bien entendu, il y a des professions qui disparaissent. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour il n'y a plus de cochers, par exemple, il n'y a plus de, pour conduire les charrettes ou les carrosses dans les rues de Paris. Bon, il y a plus de porteurs d'eau, il y a plus de des métiers qui évidemment étaient très et fournissait beaucoup d'emplois jusqu'au 19e siècle. Bon. Mais il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Hein, donc c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Il y a des nouveaux métiers qui surgissent. Alors, ça peut être des métiers de très mauvaise qualité, hein, des professions de très mauvaise qualité, livreur de pizza, employé de McDonald's. C'est des nouveaux métiers, mais c'est des métiers évidemment pas très désirés, pas très souhaitables. Mais aussi des nouveaux métiers qui sont des métiers intéressants, métiers bien payés, qualifiés. Bon, que ce soit dans la nouvelle économie, alors ça c'est vraiment une explication qu'on peut écarter complètement, hein, c'est l'explication par le progrès technique.
Et celle sur les délocalisations par exemple, je pense que ça a compté pour les textiles, la sidérurgie, c'est ce qu'on pense.
Tout à fait, alors l'explication par le problème des délocalisations est déjà un tout petit peu plus sérieuse que l'explication par le progrès technique, mais c'est pas encore vraiment ça le problème. Alors pourquoi est-ce que c'est un peu plus sérieux? Parce que c'est vrai que pour certains secteurs, on prend l'exemple le plus net, c'est les secteurs de jouets, de la chaussure, des vêtements, hein, le secteur d'habillement. Dans ces secteurs-là, beaucoup d'entreprises françaises ou européennes ont délocalisé leur production dans des pays d'Asie, dans des pays d'Afrique du Nord, où les coûts de production sont beaucoup moins chers. Donc pour les ouvriers et pour toutes les ouvrières en fait de ces entreprises, parce que c'est surtout des ouvrières qui travaillaient dans ces entreprises, la délocalisation s'est traduite par du chômage, s'est traduite par des licenciements et du chômage. C'est vrai à un niveau sectoriel. Ça n'est plus vrai du tout quand on regarde l'économie dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on fait le bilan de l'augmentation du commerce international de la France en termes de création d'emplois en France, eh bien, il est favorable pour la France. L'augmentation du commerce international a été un facteur de création d'emplois pour la France. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va acheter des produits à la Chine, aux pays asiatiques, aux pays d'Afrique. Mais eux aussi vont nous acheter des produits, ils vont faire travailler des salariés en France. Et quand on fait le bilan, c'est-à-dire entre ce que créent les emplois qui sont créés par les exportations françaises, hein, c'est-à-dire parce que la France vend aux pays étrangers et les emplois qui sont détruits par les importations, par les choses que les Français achètent à l'étranger, ben, globalement le bilan est très favorable pour la France. D'abord parce que la France alors le bilan est favorable pour la France, mais il est défavorable dans certains secteurs. Il est défavorable dans les secteurs disons les moins qualifiés, les secteurs du textile, de l'habillement, de la chaussure, du jouet, et il est favorable dans les secteurs de l'aéronautique, des transports, de la mécanique, de la chimie, dans les secteurs de haute technologie. Le bilan en termes d'emploi est très favorable pour la France. Et globalement, donc, on ne peut pas dire du tout que les délocalisations soient un problème au niveau global. Alors, bien entendu, ça pose des problèmes sérieux pour certains métiers et pour certaines régions qui sont particulièrement spécialisées. Bon, le Nord était spécialisé dans le textile, la région de Cholet est spécialisée dans la chaussure, donc c'est vrai que les entreprises, quand elles délocalisent ou quand elles ferment, ça crée des difficultés dramatiques au niveau local. Mais si on raisonne d'un point de vue global, et bon, l'économie ça sert aussi à ça, hein, ça sert aussi à avoir un point de vue global, alors là les choses sont moins simples.
Aligre FM 93.1, et c'était les nuits parisiennes de Louise Attac. Vous écoutiez l'émission, je bafouille toujours autant, hein, des sous et des hommes. Et tout à l'heure, nous étions avec Thomas Coutreau, qui est économiste, et à qui j'avais demandé si le chômage s'expliquait, comme on le croit souvent, par le progrès technique et les délocalisations. Et là, surprise, stupéfaction, voire consternation, l'explication des causes du chômage n'est pas là. Mais alors, c'est dû à quoi le chômage ?
Fondamentalement, je crois que le chômage, il a explosé dans les années 80, au moment où les entreprises ont estimé que elles étaient plus assez rentables, il fallait se restructurer. Donc des milliers, des centaines de milliers d'emplois ont été supprimés au cours des années 80 parce que les entreprises étaient face à une situation où leur marge de leur coût était trop élevé, leur marge de rentabilité était trop faible, et la concurrence internationale, l'ouverture sur le marché mondial, la libéralisation du commerce, tout ça faisait que la pression de la concurrence était très forte et les entreprises ont dû ont dû se restructurer de façon assez... Alors, ils l'ont fait de façon brutale, notamment en France, moins brutale peut-être que dans d'autres pays comme l'Angleterre, mais... Donc le chômage, il a explosé au début des années 80, entre 81 et 86, hein, il y a eu une véritable explosion du chômage, qui était due surtout à cette insuffisance, du point de vue des investisseurs capitalistes, hein, à cette insuffisance de rentabilité du capital investi.
Ils ont cherché à faire quoi ? À amoindrir les salaires des salariés, enfin, le nombre de salaires ?
Ils ont cherché à diminuer la masse salariale et à rationaliser, surtout, ils ont cherché à baisser le coût du travail, hein, et donc notamment à précariser, à flexibiliser le travail, à externaliser vers les sous-traitants. Hein. Vous voyez, des entreprises comme Renault, par exemple, l'emploi chez Renault diminue de 5 à 6% par an depuis 20 ans. Et c'est quoi ça? C'est pas uniquement des gains de productivité, hein, c'est pas uniquement parce que les Renault s'organisent, enfin que les travailleurs de Renault sont de plus en plus efficaces. C'est parce que Renault a décidé de faire de moins en moins de choses et de confier de plus en plus de ses fabrications à la sous-traitance. Et bon, la plupart des entreprises industrielles font la même chose. Donc on a des dégraissages des effectifs, une externalisation, c'est-à-dire on va confier à la sous-traitance ce qu'on faisait avant, ça va permettre souvent de rationaliser, d'éliminer les choses qu'on faisait en double. Enfin bon. Donc il y a toute une série de pratiques qui ont été menées de façon assez intense dans les années 80 et qui ont provoqué à la fois une baisse des salaires dans la richesse créée, c'est-à-dire dans les années 80, les salaires, la part des salaires dans la richesse créée chaque année par le travail des Français, la part des salaires s'est effondrée. Elle a perdu 10 points dans les années 80. 10 points, 10% de la richesse créée en France est passée brutalement du travail vers le capital dans les années 80, grâce à ces restructurations. Alors, grâce entre guillemets, bien entendu. Et en même temps, le chômage a explosé. Donc, on a vraiment. Donc c'est d'ailleurs assez intéressant. Bon, au même moment où le coût du travail baissait fortement, le chômage explosait. Ça, c'est pour expliquer l'augmentation du chômage dans les années 80. C'est fondamentalement ces restructurations liées au fait aussi qu'on entrait dans une nouvelle période, hein, de l'organisation de l'économie mondiale, hein, avec beaucoup plus moins de protection, disons, moins de marchés réservés, hein, pour les entreprises françaises, par exemple, et la nécessité de se battre aussi sur des marchés étrangers, de subir la concurrence d'autres pays sur ses propres marchés. Ça a augmenté, ça a obligé les entreprises qui voulaient rester suffisamment rentables à ajuster assez fortement leurs effectifs. Alors ensuite, dans les années 90, on peut dire qu'à la fin des années 80, cette raison de l'augmentation du chômage n'existait plus. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, les entreprises françaises avaient retrouvé un niveau de rentabilité, de compétitivité qui était largement équivalent à ceux de leurs concurrents. Et pourtant, le chômage a augmenté encore fortement au début des années 90. Entre 90 et 95, le chômage a à nouveau explosé. Et ça, c'est principalement à cause de la politique économique qui a été menée à ce moment-là. On a eu une politique économique qui a été désastreuse, quoi, qui a consisté à vouloir à tout prix, pour des raisons compliquées, mais la raison essentielle, c'était la mise en place de la monnaie unique. L'idée que il fallait absolument réduire les déficits et réduire les dépenses publiques de façon à satisfaire les critères de convergence de Maastricht, pour arriver à rentrer, disons, dans le carcan, hein, imposé par les critères de Maastricht pour rentrer dans la monnaie unique. En plus, il y a eu, au début des années 90, des problèmes importants sur, sur la monnaie. Hein, des problèmes, il y a eu des vagues de spéculation entre les monnaies européennes, donc contre le franc, contre la livre britannique, contre le... c'est-à-dire que les spéculateurs, au début des années 90, ont jugé que le marque était trop cher par rapport aux autres monnaies, et ont estimé que le franc était trop cher par rapport aux autres monnaies, notamment aux marques, et ont estimé que il fallait disons vendre du franc et acheter du marque parce que le franc allait forcément baisser. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Bérégovoy, le ministre des Finances de François Mitterrand de l'époque, a décidé de défendre coûte que coûte le franc fort, de défendre la valeur du franc par rapport aux marques. Et ça a donné des politiques avec des taux d'intérêt extrêmement élevés pour convaincre les spéculateurs que le franc allait rester une monnaie attractive. Donc la France a payé des taux d'intérêt très élevés sur les dépôts en francs, et ça a achevé de ruiner la croissance. On a eu, dans la première moitié des années 90, on a eu une croissance extrêmement lente et même négative. On a eu une récession très forte en 93. Et donc c'est à cause de cette politique macroéconomique complètement restrictive et complètement suicidaire du point de vue du chômage.
Mais elle a été dénoncée en son temps.
Ah oui, bien sûr, il y a eu de fortes critiques contre cette politique macroéconomique. Hein. Elle a été très critiquée, alors pas par la majorité des économistes, malheureusement, mais par certains économistes. Mais elle était considérée à l'époque. C'était, je répète d'ailleurs, c'était une politique économique qui n'est pas seulement qui a été menée par Pierre Bérégovoy, hein, ministre des Finances de gauche, et ensuite poursuivie par Balladur quand il est devenu Premier ministre.
Aligre FM 93.1 donc, et Déjeuner en paix de Stéphane Eicher, dont on entendait les dernières mesures. Thomas Coutreau, il y a quelques instants, expliquait le chômage des années 90 par les choix économiques faits par les gouvernements de gauche comme de droite. Mais peut-être que c'était une nécessité de défendre la monnaie, par exemple, non ?
Certainement pas par cette méthode-là. C'est-à-dire que ce qui était, si vous voulez, l'objectif, pourquoi est-ce que le gouvernement à l'époque a choisi de défendre coûte que coûte la valeur du franc par rapport aux marques ? C'était pour affirmer politiquement le fait que la monnaie unique était quelque chose d'irréversible et que la valeur du franc par rapport aux marques était quelque chose de gravé dans le marbre qu'on ne pourrait plus jamais modifier. C'était donc une décision politique extrêmement forte, mais extrêmement rigide. Par exemple, l'Espagne ou l'Italie ont dévalué leur monnaie à ce moment-là, ce qui leur a évité une augmentation importante du chômage. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont dans la monnaie unique, hein, donc ça ne les a pas empêchés de faire la monnaie unique. Simplement, la France, alors Mitterrand et Bérégovoy ont jugé que la France ne pouvait pas se permettre de dévaluer sa monnaie pour des questions sans doute d'honneur national, à mon avis mal placées. Bon, bref, ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé très cher, on estime que rien que cette décision de ne pas dévaluer le franc en 92 a coûté 500 000 emplois à l'économie française. Bon, sans compter ensuite les politiques de taux d'intérêt élevés et les politiques de restrictions budgétaires à cause des critères de Maastricht. Donc, on peut dire que, pour l'essentiel, l'augmentation du chômage dans les années 80, au début des années 90 est due à ces choix de politique économique. Alors moi, j'appelle ça des erreurs, mais c'était pas des erreurs, en fait, c'était des choix. Hein. On savait, les économistes, les gens qui ont pris ces décisions, savaient le coût que ça allait avoir sur la croissance et donc sur le chômage. Mais ils avaient choisi politiquement d'affirmer la valeur du franc fort comme un objectif plus important que la lutte contre le chômage.
C'était donc Thomas Coutreau qui nous parlait des causes du chômage. Je crains que cette émission en ait consterné plus d'un. Voilà, des sous et des hommes, c'est terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, le mardi, de 17h à 17h30. En attendant, vous pouvez m'écrire à Aligre FM, émission des sous et des hommes, 42 rue de Montreuil, 75 011 Paris, ou me joindre par email sur notre site aligrefm en un seul mot.org. Voilà, à la semaine prochaine.